Bonjour, vous allez bien?
Oui.
La température est idéale, n'est-ce pas?
Oui.
C'est vraiment agréable, ça fait du bien. Week-end dernier, beaucoup de pluie, mais là, c'est vraiment génial. Donc, comme ça a déjà été mentionné, ce matin, on avait à cœur de partager un peu plus avec vous la vision de l'espoir. Et vous allez voir que ça vient vraiment de la parole de Dieu. Et peut-être un aspect qui est moins souvent développé, toute cette idée d'être au service de la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle communauté on parle? On va aller voir ça un peu dans les Écritures ensemble ce matin. Puis je pense que les témoignages qu'on a entendus, déjà, ça donne un peu un avant-goût de ce que l'espoir a comme vision, de ne pas être centré sur nous-mêmes. On n'essaie pas de brander l'espoir. Comme dirait mon ami Gaétan Brassard, tout a toujours rapport avec Jésus. Ce n'est pas avec nous. Et donc, on est là pour servir. On est là pour servir l'Église. On est là pour servir la ville. On est là pour servir l'Église québécoise, la francophonie formée, envoyée, toujours avec la main ouverte. Et c'est vraiment l'esprit qui est derrière ça. Donc, notre vision, c'est d'être une Église, par la grâce de Dieu, d'être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. Et on a pensé aller dans Acte 2 ce matin, qui est un passage où on voit cet émerveillement et en même temps, on voit cette mise en commun, ce partage-là qui est très puissant. Quel meilleur moment que la fête de la Pentecôte, d'ailleurs, pour aller dans Acte 2, n'est-ce pas? On va aller dans un mot de prière et puis on plonge dans les Écritures rapidement. Seigneur notre Dieu, merci pour ton esprit. Seigneur Jésus, tu nous as donné ton esprit grâce à cette œuvre extraordinaire que tu as accomplie en t'incarnant déjà, en venant vivre parmi les hommes, en devenant un être humain, en mourant sur la croix comme sacrifice pour le pardon de nos péchés, en ressuscitant d'entre les morts, en montant au ciel, tu nous as ensuite donné ton esprit, Seigneur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui crée l'Église. C'est l'Esprit de Dieu qui crée cette communauté merveilleuse, émerveillée par la gloire de Dieu, par la gloire de Dieu en Jésus-Christ, par la puissance et la beauté de l'Évangile de Jésus-Christ. On te prie, Seigneur, de nous parler ce matin. Jamais serons-nous suffisamment éveillés, Seigneur, poussés par ton esprit dans une vie d'adoration qui se traduit par une vie de service. On te prie de parler à l'espoir, de nous parler à nous, Seigneur, alors que nous avons cette responsabilité de t'adorer semaine après semaine, jour après jour, d'être là les uns pour les autres, Seigneur, et d'être là pour la ville, d'être là pour la communauté du Grand Longueuil, afin de briller par nos œuvres, mais surtout de proclamer Jésus-Christ, Sauveur des hommes. Parle-nous ce matin, Seigneur, puissamment par l'œuvre de ton esprit. Viens, Seigneur, produire une vie en nous à travers ta parole, une vie nouvelle, une vie grande, une vie glorieuse. Et c'est en Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Amen. Alors ce matin, je plonge, on consacre un peu moins de temps qu'à l'habitude à la prédication. On voulait avoir des témoignages, mettre un peu de chair sur l'os, comme on dit, pour voir concrètement ce que ça veut dire à l'espoir, vraiment être au service de la communauté. Lorsqu'on arrive dans Acte 2, bien, on voit naître l'Église. Et de bien des manières, vous allez voir, je ne veux pas manquer de respect au Seigneur Jésus, mais de bien des manières, ce qu'on voit apparaître dans Acte 2 est à quelque part plus grand que ce qu'on a vu à travers tout le ministère de Jésus. Encore une fois, je ne veux pas manquer de respect à Jésus. Mais le Seigneur Jésus faisait des miracles, faisait des miracles, faisait des miracles. Et il a fait des disciples. Il y avait des centaines de personnes qui le suivaient. Et pourtant, avant sa crucifixion, avant sa résurrection, avant son ascension, avant qu'il n'envoie l'Esprit Saint, jamais on ne voit une communauté qui ressemble à cette communauté qui est en train de naître ici. L'Esprit de Dieu est en train de mettre au monde l'Église dans une dimension qui n'a jamais été vue avant, même dans l'histoire du peuple de Dieu, avec un rayonnement extraordinaire qui non seulement va bouleverser la ville de Jérusalem, mais qui va bouleverser l'Empire romain, va bouleverser éventuellement la terre entière. Et il y a encore beaucoup de travail à faire avec l'Évangile, mais la marque de l'Évangile dans l'histoire de l'humanité est sans pareil. Et sans pareil. Et on veut continuer à proclamer Christ. Et nous assistons ici à la naissance de l'Église. C'est à ça qu'on assiste. Et on voit la puissance, la gloire de Dieu à travers l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cet argument ou cette idée que l'auteur du livre des Actes, l'évangéliste Luc, développe à travers son évangile et ensuite de ça, le livre des Actes. On voit les œuvres de l'Esprit Saint, parce que c'est par la puissance de l'Esprit, il nous dit Luc dans son évangile, que Jésus lui-même agissait. Et lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, cet esprit qui est appelé aussi l'esprit de Christ, eh bien, est donné à une communauté nouvelle et à l'ensemble de la communauté. Donc, nous croyons fermement que si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, si tu as professé Jésus-Christ, si tu t'es repenti de tes péchés, tu t'es tourné vers Jésus-Christ, Dieu t'a donné son esprit. Chacun d'entre nous. Donc, il n'y a pas une caste quelconque de super spirituels qui se tiennent en avant, qui prêchent la parole et qui auraient une présence de l'esprit plus grande que n'importe quel enfant de Dieu qui a cru en Jésus-Christ. Amen? C'est ce que nous croyons. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et c'est à ça qu'on assiste ici dans le passage ce matin. C'est l'esprit de Dieu qui crée une église émerveillée par l'évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. Et c'est littéralement ce qu'on trouve dans Acte 2. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Quand l'Évangile touche les cœurs, il crée une communauté émerveillée qui se donne à Dieu et au service des autres pour la gloire de Christ. L'Église débute quand les cœurs sont bouleversés par la prédication de l'Évangile. Premier point, l'Esprit produit des cœurs transpercés par l'amour de Dieu, percés par l'amour de Dieu. Donc, on lit dans les versets 37 et suivants, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Si ça, c'est pas merveilleux, je ne sais pas ce qui est merveilleux. Jésus vient d'être crucifié pour Jérusalem, c'est ça l'histoire, il est crucifié, les disciples savent que non, il est ressuscité d'entre les morts, il est monté auprès du Père, et maintenant, ils annoncent ce message. Éclairés par l'Esprit-Saint, ils saisissent une dimension de la mission de Jésus qu'ils n'avaient jamais compris avant. Et donc, Pierre vient d'annoncer l'Évangile, il vient de proclamer l'Évangile, et la foule qui est là est bouleversée en saisissant enfin l'amour de Dieu. Pourquoi ce Jésus qui est un prophète par-dessus tous les prophètes, ce Jésus qui parlait comme aucun prophète n'avait parlé, ce Jésus qui faisait des miracles, pourquoi a-t-il été crucifié? Pourquoi une fin aussi tragique, aussi pathétique? Et parce que c'était dans le dessein de Dieu. Il devait mourir sur cette croix pour le pardon de nos péchés. Et là, la foule qui est là comprend par la grâce de Dieu ce message qui avant était simplement des rumeurs qui couraient dans la ville, des raisons de mépriser les disciples de Jésus. Saisis par l'Esprit-Saint, ils sont bouleversés. Leur cœur est percé par l'Évangile. Regardez le verset 37. « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. » Littéralement, le cœur transpercé. Leur cœur a été percé par l'Évangile. J'aime bien cette citation de John Stott qui dit « Le message de l'Évangile commence par une vérité objective. » C'est un message, on donne une information. Il y a un fait historique, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu s'est fait homme. Il est mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts. C'est une information que je te donne, que je te partage. Une vérité objective, ce que Dieu a accompli en Christ. Mais il doit transpercer le cœur pour produire repentance et foi. Se détourner de cet éloignement de Dieu, de cette indifférence envers Dieu et placer sa foi en Jésus-Christ. Il faut que cette information objective, ce message qu'on annonce à nos enfants, qu'on annonce à nos amis, qu'on annonce à nos collègues de travail, qu'on proclame constamment dimanche après dimanche, cette information-là que tu reçois peut-être constamment chaque dimanche ici, qui est simplement une information pour toi. Pour qu'il y ait conversion, pour qu'il y ait nouvelle naissance, pour que tu deviennes disciple de Christ, cette information-là doit percer ton cœur. Sans cette œuvre de l'Esprit, l'Évangile reste une information. Et bien des gens se tournent vers Jésus comme simplement vers un bon enseignant. Ils vont tirer de lui toutes sortes de principes, mais jamais le cœur est percé par l'Évangile. Parce que cette œuvre-là, où le cœur s'ouvre et on passe de l'information à la transformation, c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu. Regardez dans le passage ce qu'il dit un tout petit peu plus haut. Il dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre, écoutez bien, que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Parce qu'il faut que Dieu appelle. C'est l'œuvre de l'Esprit. Avant, on proclame, on annonce. On annonce l'Évangile. Mais nous, on ne sait pas qui Dieu appelle. Nous, on proclame. Et l'Esprit de Dieu vient et transforme. On passe de l'information à la transformation. Et si Dieu est en train de parler à ton cœur ce matin, puis tu dis, « Mais c'est vrai, je traite l'Évangile comme une information intéressante. Depuis des années, je fréquente l'Église, mais pour moi, c'est une information. Ça n'a pas d'impact concret dans ma vie. Je prie pour toi ce matin, pour que Dieu saisisse ton cœur, que tu réalises que tu as besoin d'une relation avec ce Jésus-là, que tu as besoin qu'il te donne son Esprit Saint, que tu as besoin qu'il vienne en toi te transformer pour vivre cet émerveillement-là qu'on voit ici dans Acte 2. Ce sont des cœurs qui sont percés par l'Évangile. Ils sont bouleversés. Ils disent, « Homme, frère, que ferons-nous? » On n'est plus dans l'info, là. Ah, intéressant, merci, j'y réfléchis. Non, on n'est plus là-dedans, là. Les cœurs sont bouleversés. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai compris enfin l'amour de Dieu. Ah, que Dieu t'accorde cette grâce-là, mon ami. Que Dieu t'accorde cette grâce-là, c'est tellement extraordinaire. C'est une œuvre de l'Esprit-Saint en nous et ça produit une joie et un émerveillement. Regardez la transformation profonde de ces individus. Ces disciples qui sont nés de nouveau sont transformés par l'œuvre de l'Esprit. Et puis on lit au verset 41, « Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Comprenez que ce n'était pas cool à ce moment-là d'être disciple de Jésus. Je veux dire, on vient de le crucifier. L'histoire dans la ville, c'est que ça s'est arrêté là. Et là, tu as 3000 personnes qui disent, « Moi, je vais me faire baptiser au nom de Jésus. Moi, je... Attends, ils viennent de le crucifier, là. Non, moi, je vais me faire baptiser au nom de Jésus, moi. » Et devant tout le monde, la ville est consciente. Il y a un mouvement dans la ville. Il y a quelque chose qui se passe. C'est l'Esprit-Saint qui est à l'œuvre. C'est incroyable. C'est merveilleux. Ézéchiel avait annoncé ça au chapitre 36, versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. » Lorsqu'il parle de quitter cette génération perverse, celle qui ne connaît pas vraiment Dieu, « de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé ce jour. Et depuis ce temps-là, l'Évangile est annoncé sur la terre et transforme des cœurs lorsque l'Esprit-Saint vient prendre ce message qui peut apparaître simplement comme une information et vient produire une transformation dans le cœur. Vous savez, je dis souvent, c'est le moment où l'Évangile devient une mélodie. Avant, tu l'entends, tu te dis, « Ah, c'est intéressant. » Mais il y a un moment où ce message-là devient mélodique dans ton cœur. C'est comme si ton cœur est en train de se mettre au diapason parce que tu saisis vraiment ce que Christ a fait. Ce n'est pas banal, ce n'est pas une vieille histoire. Non, c'est l'espoir de l'humanité, c'est l'espoir pour toi et pour moi. Et il y a un moment de grâce extraordinaire où l'Esprit-Saint vient transformer cette information-là dans une mélodie qui t'attire. Et là, tu dis, OK, je pense que je veux me marier à ce Christ-là. Je veux suivre ce Jésus-là. Je comprends l'amour de Dieu pour moi. À quel jour glorieux lorsque Dieu m'a accordé cette grâce-là. Et voyez-vous, l'Esprit de Dieu crée une communauté. Une communauté qui est émerveillée par l'Évangile, fascinée par l'Évangile, transformée par l'Évangile. Et peut-être que tu dis, oui, mais Yannick, j'ai connu ça. J'ai connu une époque où j'aurais fait n'importe quoi pour Jésus, puis mon cœur s'est refroidi. Tout le Nouveau Testament nous parle d'expériences semblables. C'est pas exceptionnel, mon frère, ma soeur. Si tu as perdu ta passion pour Christ, écoute, je suis passé par là, il m'arrive encore de passer par là et je vais certainement repasser par là. Ces moments où il y a des choses qui s'installent dans nos vies, il y a une indifférence qui s'installe, il y a une froideur qui s'installe, il y a une passion qui se perd. On ne voit plus cet émerveillement. Vous voyez pourquoi dans notre vision, notre prière, c'est d'être une église émerveillée. Parce qu'on ne veut pas quitter cet état d'adorateur, cette posture où on dit « Mais Mais Seigneur, quel amour! Quel amour t'as manifesté pour moi! Et que faire si j'ai perdu ce cœur-là, cette passion-là? J'ai connu Jésus, j'ai connu cette œuvre-là de l'Esprit, mais à quelque part, j'ai plus cette passion, ou je ne la vois pas même dans l'Église. Que faire si j'ai plus cette passion? J'ai envie de te dire, commence à jeûner puis à prier. Consacre du temps pour jeûner et prier. Dans le langage biblique, on va dire « chercher la face de Dieu ». Il est invisible, fait que déjà c'est un mystère, hein? Chercher sa face. On fait ça dans la prière, on ouvre les Écritures, on met un temps à l'écart. Si ton cœur est refroidi, déjà, engage-toi avec Dieu maintenant. Mets un temps à l'écart cette semaine. Élimine un repas de ta journée, deux repas, une journée. Tu as déjà jeûné quelques jours? Deux, trois jours. Dans mon repas, il y a de la place ici pour perdre quelques calories. Moi, le premier, t'en mourras pas, à moins que tu aies une condition médicale. Mets un temps à l'écart pour aller ouvrir les psaumes, pour aller ouvrir les évangiles, pour aller entendre encore une fois la voix de Jésus. Et va dans la prière et dis, « Seigneur, que se passe-t-il? Mon cœur est refroidi. Il n'y a plus de passion en moi. Je trouve ça pathétique, ça m'attriste moi-même, mais... je reconnais que c'est l'œuvre de l'Esprit et j'ai besoin que cet Esprit-là vienne vers moi. Peut-être que tu as besoin de prendre un temps avec un frère et une sœur puis de déballer ton sac, mon ami. Parce qu'il y a des péchés qui se sont installés, tu es retourné dans tes anciennes voies, un à la fois, et le péché nous engourdit. Tu as besoin simplement de vider ton sac et qu'un frère et une sœur viennent vers toi, t'annonce encore une fois l'Évangile. Dieu t'aime. Dieu veut te faire grâce. Viens, viens à la maison. Dieu t'a déjà aimé. Dieu t'aimait alors même qu'il savait que tu serais un chrétien médiocre en 2025. Il t'avait déjà aimé. Et peut-être que tu as besoin simplement d'aller confesser à un frère, une sœur, répandre ton cœur, prier pour l'Église. Priez pour l'Église de l'espoir afin qu'on soit toujours et de plus en plus une Église émerveillée par l'Évangile. On cherche des intercesseurs qui vont se tenir à la brèche tous les jours, qui vont s'engager devant Dieu. Et faites attention avant de prendre des engagements devant l'Éternel. Mais qui vont s'engager devant Dieu à prier tous les jours pour que cette vision de l'Église de l'espoir se réalise ici pour la gloire de Dieu, pour notre plus grand bonheur et pour la bénédiction de la ville. Amen. On cherche des intercesseurs qui vont se tenir à la brèche pour l'espoir. Premièrement, l'Esprit produit des cœurs transpercés par l'amour de Dieu. Deuxièmement, l'Esprit crée une famille généreuse. Regardez les versets 42 à 46. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est-à-dire le repas du Seigneur, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, dans le sens qu'ils avaient une adoration pour Dieu. Ce n'est pas une crainte terrassée. C'est une crainte qui dit, mais quel Dieu merveilleux, je veux l'adorer aujourd'hui, je veux reconnaître ses bontés, je veux reconnaître son amour, c'est ce que je veux lui donner, ce qu'il mérite, c'est mon attention. C'est ça ici, la crainte de Dieu, c'est de dire, mais quel Dieu saint peut m'avoir aimé ainsi, moi pécheur? La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, car au début de l'histoire de l'Église, par les apôtres, Dieu a permis vraiment des vagues de prodiges et de miracles. Et on va en parler un peu plus la semaine prochaine, même dans 1 Corinthiens 14. Mais il y a un phénomène qui est là, qui est assez unique, d'établissement du témoignage, une manifestation puissante qu'un jour nouveau, un air nouveau a commencé, où l'Esprit va venir et va être déposé dans le cœur et sur les cœurs de tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés. Sauvez-vous pas, on ne vous demandera pas de mettre votre maison à vendre aujourd'hui. On y revient dans un instant. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Pensez à ça un instant. On a tous des besoins. On est dans une situation économique qui est comme inquiétante, préoccupante. On ne sait pas. Hein? On attend toujours un petit pigeon voyageur qui va nous arriver du sud pour nous dire « Bon, qu'est-ce qui se passe cette semaine? » Ça se peut qu'on ait des nouvelles conditions économiques. Mais pensez à ça. Leur situation était certainement plus précaire que la majorité d'entre nous. C'est une autre époque. Hein? Et ils étaient sensibles aux besoins les uns des autres. C'est incroyable la générosité. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple pour recevoir l'enseignement, pour adorer Dieu. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il y a un partage qui a commencé à se manifester spontanément. on n'a aucune indication que les apôtres ont commencé à dire à tout le monde, « Bon, on vend nos maisons, on part une commune. » Non, on n'a pas de ça. Puis en fait, c'est clair quand tu lis l'ensemble du Nouveau Testament qu'il y a plein de gens qui vont garder leurs propriétés. Il y a des églises qui vont se réunir dans les maisons. Et ce n'est pas une question que tout le monde s'est mis à vendre. Mais il y a des gens qui ont dit, « Écoute, moi, je pense que Dieu me convainc de poser ce geste-là. » Mais avec une générosité qui est radicale. Et qui pourtant, aux yeux de la ville, n'a pas passé pour folle, mais belle. Parce qu'il y avait une sensibilité extraordinaire aux besoins des uns des autres. Où je regarde mon garde-manger puis je dis, ben, j'en ai au moins pour un mois. Donc, j'en ai trop pour cette semaine. Tu vois, c'est ça l'idée. Et il y a une générosité incroyable, une mise en commun qui se manifeste. La prière, le repas du Seigneur, l'enseignement des apôtres, une unité profonde. Jésus avait dit dans Jean 13, verset 34-35, « Je vous donne un commandement nouveau. » Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Ces gens-là viennent juste de comprendre comment il les a aimés. Comprenez, ils viennent de recevoir l'Évangile. Ils viennent de saisir comment Jésus les a aimés en mourant sur la croix. Pour eux. Lui, le juste, est mort sur la croix pour des injustes. Lui qui vivait une communion parfaite avec son Père a pris nos péchés afin que nous entrions en communion avec le Père. Et ils sont là, mais ils se disent, aimer comme il nous a aimés. Est-ce qu'il y a une limite à ça? Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et c'est ce qu'on voit avec beaucoup de simplicité. Être une église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté, bien, ça commence par la maison de Dieu. Quand vous regardez notre vision puis vous dites, mais la communauté, quelle communauté? Celle-ci avant tout. La générosité des enfants de Dieu commence toujours par la maison de Dieu. Un peu de la même manière que tu vas commencer par nourrir tes enfants. C'est bien, c'est honorable, c'est juste. La générosité commence par la maison de Dieu et c'est ce qu'on voit ici. Il commence par prendre soin de l'Église, être attentif à ce qui se passe dans l'Église. Paul dit dans Romains 15, verset 7, « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Voyez-vous, ce n'est pas une communauté qui est repliée sur elle-même ou individualiste, c'est une communauté qui est hospitalière et hospitalière de manière sacrificielle. Déjà, ouvrir nos maisons aux frères et sœurs pour s'inviter et entrer en relation profonde les uns avec les autres. Juste faire connaissance au départ. Un petit barbecue cet été, puis partager ensemble, partager notre pain, partager un repas ensemble, aller prendre une marche ensemble, ouvrir ma vie à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'on voit ici. Au service de la communauté, ça commence par la maison de Dieu. Et on a à grandir en cela, les amis. On a à grandir parce qu'il y a des gens ici qui sont au milieu de nous et qui se sentent seuls. Ils se sentent seuls alors que moi, hey, écoutez, moi, ça fait 35 ans que je suis à l'Église de l'Espoir. Quand j'entre ici, là, c'est comme si j'entrais dans ma maison. Ben, en fait, chez moi, j'ai une maman. Ici, j'en ai 33. J'ai 46 sœurs. Vous comprenez? C'est tout le monde, je suis chez moi. Comment je pourrais souffrir de solitude ici? Et c'est parce que la famille m'a accueilli. La famille m'a intégré. Il y a des gens au milieu de nous qui souffrent de solitude. Et la réponse est toute simple. C'est d'avoir la générosité d'ouvrir nos vies, d'ouvrir nos maisons, de faire le pas ce matin, de dire, je suis assis à côté de quelqu'un, hey, on ne s'est jamais salué. C'est bête, j'aimerais ça te saluer, faire connaissance avec toi. Tout simplement, s'accueillir le dimanche matin, rester avec nous tout à l'heure pour s'accueillir les uns les autres. Ce n'est pas une communauté qui est repliée sur elle-même, mais elle est hospitalière. Voyez-vous, le mot grec qu'il y a ici, c'est le mot koinonia, et ça parle d'une communion. Ça parle de rapprochement. C'est quelque chose que l'Esprit produit en nous. À quoi est-ce que ça devrait ressembler à l'espoir? Ce matin, je vais vous laisser plus avec des questions ici. Selon toi, vivre la communauté à l'espoir, ça devrait prendre quelle forme? Et tu as l'Esprit Saint de Dieu comme moi, si tu es chrétien, il va te donner les réponses. Ça devrait prendre quelle forme vivre cette communauté-là à l'espoir? Où est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous faire grandir pour être au service les uns des autres? Déjà dans la famille de Dieu, déjà en commençant ici. Qui dans notre Église porte des besoins qui sont invisibles? Dietrich Bonhoeffer, dans la vie communautaire, dit « Le chrétien a besoin d'un autre chrétien qui lui parle de la parole de Dieu. Il a besoin de lui encore et encore. Quand il est incertain ou abattu, car seul il ne peut se prêcher l'Évangile à lui-même. » Frères et sœurs, on proclame l'Évangile pour voir des gens venir à Christ et on proclame l'Évangile afin que nous demeurions en Jésus-Christ. Et donc, j'ai besoin que vous me proclamiez l'Évangile. Quand vous voyez que j'ai de l'air de porter ça lourdement, ma charge de chrétien, ma charge d'époux, ma charge de pasteur, arrêtez-moi et dites « Yannick, j'aimerais ça de partager l'Évangile. Vous allez faire du bien à mon âme. » L'Esprit produit des cœurs transpercés par l'amour de Dieu. L'Esprit crée une famille généreuse. L'Esprit fait rayonner l'Évangile. Et je termine avec ceci ce matin. L'Esprit fait rayonner l'Évangile. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voyez-vous, Jésus dit dans Matthieu 5, versets 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. » Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ces bonnes œuvres-là débutent par la communauté de l'Église. Quand le service de police me contacte et me dit, Yannick, j'ai une personne qui, je pense, s'identifierait à votre foi, mais peut-être ne connaît pas tout à fait la foi chrétienne, est-ce que tu penses que je peux vous l'amener? Puis vous allez pouvoir prendre soin. Hey, quelle grâce incroyable! Pourquoi est-ce qu'ils m'appellent pour ça? Parce qu'ils ont expérimenté quelque chose ici. Ils n'ont peut-être pas la foi, mais ils savent qu'il y a un amour ici qui fait que si je t'amène cette personne, écoute, je lui donne une chance de vivre une vie meilleure. Même s'ils n'ont pas compris tout le message, hein? Ils nous les amènent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent nos bonnes œuvres. Parce qu'ils savent que c'est un lieu d'amour, de grâce, où on veut te construire, on veut t'aider à te construire en Jésus-Christ, à restaurer une vie qui a été brisée par le péché. Vous êtes la lumière du monde. Et donc, ils trouvaient la faveur du peuple, la ville était bénie de leur présence, les gens se convertissaient parce qu'ils voyaient une communauté nouvelle. Tim Keller a dit « L'Évangile crée une nouvelle communauté qui attire le monde non par son pouvoir, mais par son service, non par son prestige, mais par sa beauté. » Alors voyez-vous, nous proclamons Jésus-Christ, mais nos œuvres doivent concorder. Nos bonnes œuvres ne sont pas l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est un message, c'est une information qui, par la puissance de l'Esprit, va produire une transformation. Mes œuvres ne sont pas l'Évangile. Mes œuvres sont accompagnées des cœurs émerveillés par l'Évangile de Jésus-Christ. Vous pensez que ça ne produit pas une œuvre différente? Et bien sûr que oui. L'Évangile crée une communauté nouvelle qui attire le monde non par son pouvoir, mais par son service, non par son prestige, mais par sa beauté. Nos œuvres ne sont pas l'Évangile. Mais l'Évangile est l'explication de nos œuvres, littéralement. Et on a un vrai problème. On a un vrai problème si personne ne sent le besoin de nous demander des explications sur ce qui se passe ici. Non, les gens doivent être troublés par l'amour, par l'intégration. On en parle souvent. Regardez la diversité dans l'Église. C'est splendide, c'est merveilleux. Déjà, notre Église est connue pour son amour et pour l'Évangile dans la ville. Lorsque les services de police nous amènent des gens, c'est un témoignage de ça. Lorsqu'on peut aider humblement à travers la banque alimentaire, c'est un témoignage de ça. Et ça nous permet tellement d'annoncer Jésus-Christ. Honnêtement, lorsque Raymond et Mathieu, les propriétaires du Café Crème, en partenariat avec nous, mettent sur pied la table du roi pour offrir des repas à très faible coût une fois par mois, c'est un témoignage. Ça s'appelle la table du roi. Ça s'appelle la table du roi. C'est très intentionnel. Lorsque notre pasteur à la jeunesse se réunit à la cafétéria du cégep pour étudier la Bible, c'est parce que nous voulons bénir la ville à travers ça. Lorsqu'on accueille des formations pour le service de police ici et qu'on prête nos locaux, hey, des fois, c'est un peu inconvenient, c'est un peu dérangeant. Mais être dérangé pour l'Évangile, quelle grâce, hein? Quel privilège de pouvoir être dérangé pour l'Évangile. Priez pour nous, s'il vous plaît. Je termine avec ceci, je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. L'espoir sert de toutes sortes de manières. On a parlé tantôt du centre de formation et je vais vous en reparler un petit peu tout à l'heure avant la fin du service. Mais priez pour nous, s'il vous plaît, pour que Dieu nous dirige comme communauté. Quand je dis nous, ce n'est pas juste les pasteurs, c'est toute l'Église. Le phénomène d'itinérance est en croissance énorme. Hein? La maison chez Élise à côté, qui aide beaucoup de gens à ne pas se retrouver à la rue, est en vente. Là. La ville s'arrache les cheveux pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. C'est tellement de gens qui sont menacés de se retrouver à la rue. Et donc, dernièrement, j'arrive ici un matin, puis on a trois personnes sans-abri qui sont un peu installées autour, tout ça. Certains d'entre eux qu'on connaît bien, hein, c'est presque des amis. Puis on va discuter avec eux, puis ils vont laisser des choses, on met tout ça dans un sac. Puis je vais voir l'un d'entre eux, puis je dis, écoute, je peux pas te laisser dormir là, tu sais, parce que la semaine prochaine, ça va être un campement au complet. Là. Et donc, on est comme mal pris, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Déjà, ils savent qu'on les aime. Je sais, Yannick, son véhicule était brisé, viens avec moi, on va aller dans l'atelier, on va chercher des outils. Il y en a un autre qui avait laissé tout son stock là. José, mon adjointe, est allé chercher des sacs verts. On a mis ça de côté. J'ai informé celui que je connaissais. Je lui ai dit, écoute, si jamais tu le crois, je lui ai dit, on a tout mis ça de côté. On n'a rien jeté au vidange. On n'a pas ouvert ses sacs. On sait que c'est tout ce qu'il possède. Hein? C'est toutes ses propriétés. Là. Il n'était pas en état. Il est parti. Il revient en fin de journée. Il dit, ouais, il m'a dit que je pouvais venir. Vous êtes des gens bien. Vous avez mis ça de côté. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été prises? Je lui ai dit, regarde, on a juste mis ça dans un sac. Je lui ai donné. Mais nous, ça nous déchire le cœur parce qu'on n'a pas une meilleure solution. Alors déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on les traite comme des gens qui sont dignes d'être aimés. Puis on essaie de les aider, puis gentiment, on va vers eux, puis on se dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Peut-être qu'on peut faire ça, peut-être que ça, on ne peut pas. Mais priez pour l'Église. Que Dieu nous montre comment on peut être là pour cette communauté-là. C'est une communauté qui est en train de grandir, littéralement, à Longueuil. Et Dieu peut nous conduire. On a des gens ici à l'Église qui ont une expérience extraordinaire pour travailler avec ces gens-là puis les aimer. Frères et sœurs, l'Église de l'espoir prie, supplie Dieu d'être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Et ce que je voulais voir avec vous ce matin, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui crée ça. C'est l'Esprit de Dieu qui crée l'Église. Nous annonçons l'Évangile, mais lorsque l'Évangile devient mélodie, lorsqu'elle passe d'information à transformation, c'est parce que l'Esprit de Dieu appelle. Et là, les gens sont bouleversés. Et là, ils répondent au message de l'Évangile en disant, « Homme, frère, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? On a compris enfin l'amour de Dieu. » Et là, cette Église-là est une nouvelle communauté, une communauté hors de la culture parce qu'elle est différente. Elle est habitée par l'Esprit-Saint. Déjà, à bien des égards, l'espoir est cette communauté. Mais en même temps, on a tous conscience qu'à quelque part, ce feu-là qu'on voit là pourrait reprendre hein, de la vigueur. Et on a besoin d'intercesseurs qui vont se tenir à la brèche et qui vont dire, « Seigneur, viens nous visiter. Viens nous visiter, on est trop confortable. » Et je ne parle pas des chaises où vous êtes assis, là. On est trop confortable, Seigneur. L'Évangile devrait nous bouleverser plus que ça, devrait produire quelque chose de nouveau en nous, de bouleversant pour nous et pour la communauté à l'extérieur. Priez pour les pasteurs afin que nos cœurs soient toujours près de Christ. Et priez pour que Dieu fasse naître tout ce qu'il veut faire naître au milieu de nous. Amen. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, humblement, on vient devant toi, sans prétention, Seigneur. Prétendre qu'on vit une passion comme ça, marcher vraiment par la puissance de l'Esprit jour après jour avec une passion, avec une radicalité semblable, Seigneur. Oh, il m'arrive d'avoir des moments, Seigneur, mais vivre ça constamment. Et pourtant, c'est le désir de mon cœur, Seigneur. de vivre une vie entièrement consacrée. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur. On voit la beauté de la puissance de l'Évangile manifestée dans cette Église à la Pentecôte. C'est extraordinaire, Seigneur. Et nos familles, et nous, et la ville, et le Québec ont besoin de voir des Églises qui sont vivantes ainsi, Seigneur, qui vibrent animées par l'Esprit de Dieu avec cette même manifestation de grâce et de puissance, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Viens nous visiter, ô Dieu. Que ton Esprit Saint vienne saisir nos cœurs, afin que nous vibrions, Seigneur, de cet amour, de cette passion, que notre émerveillement, Seigneur, soit le moteur de tout ce que nous faisons. C'est en Jésus-Christ que nous te le demandons, Père. Amen.